Vous écoutez
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Nous sommes en direct, bien sûr, en direct sur RMC à la radio, en direct sur RMC Sport News, à la télé dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football ne pense pas encore. Et ce soir, pour ce jeudi de reprise de Ligue 1, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Jérôme Bretagne, évidemment. Salut Jérôme.
Bonsoir à tous.
Et notre nouveau partenaire du jeudi soir avec nous, Willy Sagnol. Salut Willy.
Salut messieurs.
En vedette US.
En vedette,
ah, vedette US.
En vedette allemande.
En vedette allemande, effectivement.
Ou stéphanoise.
Ah, tu préfères faire quoi?
Ça dépend.
Vente comme
ça dépend, mais les deux se ressemblent.
Une German vedette ou une Steph vedette?
Tu dois que la Vallée, tu dois que la Ruhr ressemble au Forez.
Je vois pas en bien quoi la Bavière peut ressembler au Forez.
Non, sur certaines valeurs, tu vois, de travail, de. Non, ça s'y ressemble un peu.
Il y a qu'à Saint-Etienne qu'on travaille, alors je savais pas. Hein.
Ah, mais j'ai pas dit qu'il y a qu'à Saint-Etienne. Mais à Saint-Etienne, on travaille dur.
Ah, il y a un point commun. Roland Wolfhardt.
C'est vrai.
Il fallait s'en souvenir de celui-là.
Ah bah voilà,
il est resté longtemps, mais ouais. Il y avait un paquet
d'histoires du foot entre Saint-Etienne et la Bavière. Il y a quand même 2-3 épisodes marquants.
Ouais.
Allez.
Combien de matchs avec le Bayern? 325 matchs avec le Bayern.
Mais toi,
avec Saint-Etienne un peu moins.
T'es de là-bas, mais gamin, et tout, t'étais supporter des Verts, c'est quelque chose de.
Je suis né à Saint-Etienne.
Ah oui.
Donc, oui.
Donc toi, t'as grandi avec l'image Saint-Etienne-Bayern, tout ça?
Moi, je suis né un an après, tu vois, c'est son 16, moi je suis dans son 17.
Mais t'as grandi avec cette imagerie-là.
Ouais, et même les gens beaucoup trop longtemps vécu sur
oui,
ça.
Oui,
c'est ce qui a fait du tort au club à un moment donné.
Ah, donc toi, aller au Bayern, c'était une vraie signification quand même pour toi.
Je me suis pas posé forcément la question. C'est après, en me disant oui, il y a des points communs.
Enfin, c'est un club dont tu avais entendu parler depuis tout gamin.
Oui,
n'oublions pas que tu es passé par Monaco, qui a beaucoup de points communs avec Saint-Etienne.
Okay. Ah, là, je vois pas trop. Là.
Okay. Non, mais c'est
aucun. Okay. Non, mais c'est... Après, tous les clubs, si tu regardes, tous les clubs ont une histoire avec d'autres clubs.
T'es né à Saint-Etienne.
Ouais, je suis né à Saint-Etienne.
Ah, si. Donc, c'est un
point commun entre Saint-Etienne et Monaco, casino.
Un jour.
Ou pas. D'entraîner Saint-Etienne, non.
Non.
Non. Ah, non, parce que moi, je pars du principe que tu vois qu'un entraîneur, il doit pas mettre trop d'émotions dans son job au quotidien. Et par exemple, pour moi, Saint-Etienne, le club, je l'aime tellement qu'il y aurait un côté émotionnel qui parfois pourrait me faire des conneries.
Ouais.
Je précise que Julien Cazard nous rejoindra tout à l'heure, tout comme Fred Hermel, parce qu'on veut des nouvelles du Real dans 6 jours maintenant. Il y a PSG Real, il se passe plein de choses au Real. Et il y a plein de blessés au Real, figurez-vous, on fera le point avec Fred.
Limos, combien de fois par semaine
Il a son bureau là-bas.
Ouais, mais il n'y est pas tous les jours quand même. Non.
Alors déjà, sache qu'il habite pas loin du stade. Donc
non,
déjà,
son bureau,
ça
je m'en fous qu'il habite pas loin.
Il a son bureau.
Ouais, ça doit être 4-5 fois
par semaine. Petit quart d'heure à pied du stade, hop. Donc, l'événement ce soir.
On envoie le chauffeur pour l'emmener au bureau.
Oui,
pas à pied quand même.
L'événement ce soir dans l'After, c'est le retour de la Ligue 1. Débat à suivre sur les situations notamment de Lyon et de Lille qui jouent demain. La Ligue des Champions démarre également pour ces deux clubs la semaine prochaine. Le 32-16 est ouvert. Supporters lillois et lyonnais. Et puis, tiens, vu qu'on a 3 heures d'After ce soir, on a le temps également de s'amuser. On aime bien dans l'After. On va vous solliciter, vous tous qui nous écoutez, pour lister vos plus belles émotions vécues avec votre club. Alors, quand je dis belles, c'est pas. J'ai plutôt vos émotions vécues avec votre club.
Plus fortes, quoi.
Vos plus fortes, voilà. C'est ça le mot exact, Daniel. Vos plus fortes émotions vécues avec votre club. Dans un sens comme dans l'autre.
Ouais.
Tu vois ? Donc, réfléchissez à tout ça. On a déjà reçu beaucoup de propositions sur Twitter. C'est intéressant. Et sur Direct Studio également. Voilà. Et puis, attention, ce soir, événement. Le début de l'Euro de volley en France, messieurs, dames. Et l'équipe de France, qui pourrait bien gagner l'Euro de volley, pourquoi pas, elle fait partie des favoris. L'équipe de France affronte la Roumanie avec Nicolas Bayou sur place. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir à tous. L'équipe de France qui mène au score dans ce premier set, le premier match du championnat d'Europe, ici à Montpellier. Les Français qui ont de très grosses ambitions. Ils commencent la compétition face à une équipe assez modeste, hein, qui retrouve le championnat d'Europe. l'Europe depuis 1995. La Roumanie était absente. Pour le moment, ça se passe bien pour l'équipe de France qui mène 21-16 dans cette première manche. L'équipe de France toujours privée de sa star Erwin N'Gapet, ménagée pour les trois premiers matchs de ce championnat d'Europe.
On se retrouve tout à l'heure pour la fin du premier set, le volley sport que l'After connaît bien, notamment Daniel, champion d'Italie de beach volley 1995.
Ça fait longtemps.
Mais champion d'Italie des moins d'un mètre 70, hein, parce qu'il y a une catégorie spéciale.
Pas du tout, sur la plage, c'est un
non, peu en haut.
Quand t'as une bonne détente, quand t'as une bonne détente,
et que t'es à
j'ai tout.
Je... Non mais quand il y a on a ta taille, on joue pas avec les mêmes le même filet. Si, la même hauteur.
Bah tu fais parler d'autres qualités, mon vieux.
Daniel est un défenseur au volet. C'est pas trop un
spécialiste.
Non mais tu joues tous les postes au volet.
Oui, tu joues tous. Et ben alors, il y a des moments où t'es meilleur en passeur qu'en attaquant.
Bah c'est... ça c'est sûr pour ce match. Oui, il y a un petit problème.
Non, écoute Lolo, t'as l'impression qu'il fait 2 mètres.
Bah non, je fais 78, donc j'arrive à ce match.
Oh, mais tu vas pas arrêter, non. C'est pas parce que t'as mis ça sur ta fiche LFP, t'as à peine 3 cm de plus que moi. Tu crois qu'on se voit pas tous les jours?
Tu te fous de moi, quoi.
Bah je me fous de toi. Non, c'est une réalité.
Mais attends,
il est marrant lui.
Mais attends, tu l'as vu tout à l'heure au tennis.
T'es pas grand, t'es
à la voix.
Quel rapport?
Bienvenue dans l'After.
Alors,
attends, tu fais 1m60.
Avant de parler de Lyon et de Lille,
t'es pas beaucoup plus grand que moi.
Autre info du soir,
t'es un peu rablé.
Vous êtes capable de vous engueuler sur votre taille respective.
Arrête d'inventer des trucs. Si moi je peux pas se matcher au volet, tu peux faire quoi, toi? Tu veux
être avec un trampoline? Lève-toi, mets-toi dos à dos avec Daniel.
Mais c'est sûr.
Regarde. Oh là là, putain, le truc de gosse, mais t'es vraiment un môme, toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il y a quoi comme différence, franchement? Il y a combien? Mais je me lève pas!
Willy?
Ah, j'irai à 7-8 cm.
7-8.
Ah, à peu près. Après, Jérôme.
Ouais, est-ce que ça va lui permettre de se matcher au volet? S'il met un trampoline, il peut se matcher, sinon il touche pas.
Qu'est-ce que tu racontes? Vu la détente, oui, je peux se matcher.
Oh.
Alors, on va parler de Lille et de Lyon, mais avant cela, info du jour concernant le PSG.
Il est sur ma taille, mais il est malade.
Info RMC, messieurs. Le CUP, donc les ultras parisiens, nouvelle version, menace. Promettent plutôt une réception musclée pour Neymar samedi face à Strasbourg. Donc il y a eu réunion aujourd'hui entre le club et les supporters. Le club a tenté de faire passer un message en disant bon les gars, Neymar sera là, voilà. On aimerait que ça se passe bien. On aimerait voilà
c'est
que.
Incroyable quand même.
De quoi
c'est
le club dit ça?
Mais c'est hallucinant.
Attends, je te donne toutes les infos.
Oui, mais...
Là, les supporters disent, écoutez, nous on vous prévient, ça va être hostile, va y avoir des banderoles contre Neymar. Et là, le club dit, ok, banderole interdite. Et là, le ton a commencé à monter, voilà. Donc ça promet quand même d'être très tendu samedi. Hein.
Mais c'est quoi? En fait, ils veulent quoi dans le stade? Ils veulent que des pimpins qui disent rien, en fait. Il y a un groupe de supporters qui met les ambiances depuis qui sont revenus, ça a quand même changé l'ambiance au parc. Et donc tu vas tout leur retirer parce que Monsieur Dieu revient et on doit tout le monde doit s'agenouiller devant lui.
Alors je
et
continue
c'est
les infos.
De faire, déjà.
Écoute bien Daniel, Daniel Jérôme Willy. Plusieurs actions sont envisagées au sein du collectif des ultras, que ce soit dans le stade et en dehors. L'hypothèse d'un boycott des supporters du match face à Strasbourg et peut-être même du match au Real si jamais on les laisse pas faire peut être envisagée. Donc ça va quand même loin. Hein. Voilà. Et le CUP dit, c'est vous le club qui devez vous faire respecter l'institution et faire passer le club avant les joueurs pour une question de principe. Voilà ce que disent aujourd'hui les supporters au club. On arrive quand même à une situation là qui est incroyable.
Écoute, ouais, mais c'était... Moi, je sais pas, qu'il soit énervé par rapport à Neymar, c'est une chose et c'est même légitime,
ouais.
Parce qu'ils ont eu l'impression de s'être sentis floués. Mais si tu fais une grève d'applaudissements ou de supporters, tu pénalises le club et tu pénalises les autres joueurs aussi qui eux t'ont rien fait. Qui montre via éventuellement des bouts quand ils touchent le ballon. Ça c'est une chose, mais qu'ils en fassent trop après c'est aussi
un peu négatif. Ça peut être contre-productif pour l'équipe.
Bah oui, puis surtout sincèrement alors qu'ils veuillent montrer leur désapprobation, leur déception, leur énervement, c'est une chose et je partage même certaines choses. Mais Pour être honnête, je pense que déjà Neymar au fond de lui, il s'en fout complètement. Donc ça pénalisera plus les autres.
Ils que Neymar, si il fait des touches de ballon,
je pense que les banderoles, il va pas s'en foutre longtemps.
Quand même.
Les banderoles.
Il se fait insulter au premier match. Maintenant, pour en revenir à ce qui s'est passé, que le club essaye de parler avec les supporters, qu'ils fassent passer un message, qu'ils soient dans le dialogue, et c'est ce qu'ils sont depuis pas mal de temps, très bien, pas de problème. D'un autre côté, je soutiens les ultras à 100%. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent siffler Neymar, ils sifflent Neymar. On n'a pas à leur dire quoi faire. Comme on ne dira pas au reste du stade de siffler ou de ne pas siffler, ou de suivre ou de ne pas suivre les ultras. Ils auront leur autonomie pour réagir.
Je te rassure, Daniel, tu sais comment ça se passe au parc maintenant, hein, dans les autres tribunes. Dès qu'il y en a un qui est un peu trop virulent sur les joueurs du PSG ou sur l'entraîneur ou sur le staff, ou même sur le président, en se retournant vers la corbeille, les mecs, ils sont virés du stade. Quoi.
Ouais, pas...
Non, non.
Moi, je te parle.
Moi, je te le dis.
Je te parle d'ailleurs, même de la tribune en face, la tribune de Paris, la tribune ou même. Ça peut faire du bruit. Évidemment, principalement, ce sera en tribune Auteuil qui aura le bruit. Si bruit il doit y avoir, si contestation et manifestation anti-Neymar il doit y avoir. Mais eux, on doit absolument, tu vois, autant pour certaines banderoles où on a parlé depuis deux semaines
que de banderoles. L'éventualité du boycott, c'est sur les laisse pas faire. Hein. Voilà. On a bien compris. Hein.
On a pas arrêté de parler de banderoles insultantes avec des mots, hein, mais. Pour ce qui est de l'expression de l'ultra, l'expression du supporter, pour contester une politique sportive, pour aller à l'encontre du joueur, mais jamais je ne céderai là-dessus. J'ai toujours été du côté des ultras, je le serai tout le temps. Ah oui. Ça là-dessus, ça ne changera jamais. Ils ont dit on veut pas, on n'accepte pas de ne pas ou en gros de suivre votre conseil. On a envie de faire ce qu'on veut, on le fait. Que derrière les mecs soient allés dire eh ben banderole interdite.
Non mais c'est...
quelle erreur. Ah mais oui. Quelle erreur. Exactement. D'avoir été dire ça. Exactement. Ça va aller chauffer, ça c'est stupide. Alors, prenons en compte quand même ce qu'a dit Willy parce que c'est vraiment pas bête. Il a raison. Les supporters doivent aussi se dire on va pas se braquer sur un mec qui nous a pourri notre été, qui s'est foutu de notre gueule, qui a vraiment comment dire manqué, c'est le minimum qu'on puisse dire de respect au club. Mais c'est un match de Ligue des Champions. C'est notre équipe, ce sont nos joueurs, c'est notre club, on l'aime. On peut pas tout pourrir à cause d'un mec.
Ouais, mais il sera pas là en Ligue des Champions, Daniel.
Ouais, mais il menace de boycotter mercredi.
Eh oui, mais.
Donc, il faut pas qu'il boycotte mercredi. Mercredi, Neymar est pas là. Il y a un match à gagner, c'est le Real. Mais... Il faut que le stade soit à 1000%. Mais... Non, mais boycotte le match d'après, je sais pas. Après, c'est toujours pareil. Dans la contestation, que je renouvelle mon soutien total à la contestation, il faut quand même être intelligent dans la contestation, faut pas faire n'importe quoi parce que comme dit oui, c'est ton
côtés,
club
des deux côtés dans ces
bien sûr mais évidemment le club ils ont absolument pas aller leur dire club, on interdit les banderoles, c'est des conneries
le
ça
club manque de recul
bien sûr absolument
je vais pas dire d'intelligence parce que bien
en l'occurrence si compétents. D'avoir dit ça c'est non, très bête hein.
mais moi je suis désolé Willy, toi quand tu disais ils pénalisent les autres joueurs et tout, ok, mais on est tous passés dans les clubs. Alors il y a un attachement, moi j'avais un attachement particulier à Paris parce que j'y suis né et tout ça, comme toi à Saint-Étienne par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as dans la peau un supporter, ils ont ce club dans la peau, les ultras,
il y a pas de problème.
Non mais
justement, c'est ton club qui joue à la Ligue des Champions. Neymar est pas là, tu t'en fous de Neymar.
Les propriétaires sont de passage.
Bien sûr.
Les joueurs sont de passage.
Ouais.
Le plus important, qu'est-ce qui est le garant de l'âme d'un club, de faire respecter les choses, c'est les supporters.
Bien sûr.
Eux, ils seront toujours là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Donc, au bout d'un moment. Tu peux pas leur dire, et là, c'est ce que je te rejoins, tu peux pas leur dire, ah bah, pas de banderole, ah bah non, soyez indulgents avec Neymar. Mais non, mais attends, ils se sont sentis, je vais pas te sortir le mot, mais par Neymar. Donc, au bout d'un moment, stop, basta.
Et le mec, il va même pas parler. Non. Le mec, il va même pas parler, il va pas la faire, la conf, l'interview, rien.
Déjà, il la fera pas. Mais moi, il y a même une chose, parce que parfois, j'ai un peu l'esprit tordu aussi. Quand je vois son père qui, après le mercato, remet une couche deux jours avant le retour de son fils dans l'équipe,
on en a parlé
moi,
hier.
je pense peut-être au fond de moi que le clan Neymar
pourrir carrément la saison.
Espère que la situation. Non, ils veulent pas pourrir la situation du,
non, mais
de, du club.
Elle va s'envenimer encore plus.
Entre Neymar et les supporters, pourrir la situation pour que Neymar, à un moment donné, le club
dise regardez,
allez, vas-y, casse-toi. Allez, vas-y, on réclame plus 200, on réclamera 120, mais casse-toi, on n'en peut plus.
Eh ben, Willy, c'est exactement pour ça que je disais, il faut faire attention.
La stratégie du pourrissement.
Oui, mais attends, attention.
Là, c'est grave.
C'est justement. Mais non, mais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans la contestation, il faut toujours être intelligent et faire attention à ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les supporters ne doivent pas tomber dans ce piège-là. Les supporters doivent faire gaffe et doivent dire, on ne va pas massacrer la saison de notre club et pourrir et comment dire, ne pas soutenir les autres joueurs à cause de ce mec-là qui est peut-être, on ne sait jamais, hypothèse, peut-être dans ce que tu dis, dans cette stratégie. Donc il faut faire attention. Il faut, il faut une contestation mesurée parce que c'est pas le club à qui tu en veux ou les dirigeants, t'en veux un mec.
Ben il faut que la contestation elle soit intelligente. Ouais. Et ça, il y a une façon très simple. T'as un joueur comme Neymar. Neymar, c'est un joueur, c'est un attaquant. Donc Neymar, tu sais qu'il va marquer des buts. Plutôt que de siffler à chaque fois que Neymar touche le ballon, parce que ça peut aussi perturber les autres joueurs, il y a une chose à faire. Quand Neymar marque un but. Eh ben, c'est le silence complet dans le stade.
Absolument.
Voilà. Ouais, mais ça marchera pas. Parce que ça marchera chez les ultras peut-être, mais pas dans le reste du stade.
Eh ben, c'est pas
grave. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas ça grave. Se verra. Tu sais, les ultras, c'est ceux qui gueulent le plus fort, hein. Donc,
ceux
ça
qui font
verra,
le plus de bruit. Et puis,
Les ultras, ils sont aussi contestés par notre tribune, hein. J'ai par exemple des témoignages. On me dit, oui, alors, les mecs du CUP, par exemple, avant, ils disaient, oui, si on insulte un de nos joueurs, on nous insulte. Ben, en réalité, là, maintenant, c'est eux qui inversent le truc.
Non, Gilbert, dans le reste du stade, tout le monde. Dans le reste du stade, il n'y a pas que des mecs qui vont être opposés. Jérôme, dans le reste du stade, il y a des supporters du PSG aussi. Ben oui. Et la majorité, ils en veulent à Neymar.
Ben bien
faut pas
sûr,
croire que
exactement.
Les autres vont applaudir. Mais c'est quoi l'histoire? Moi, je connais un tas de gens qui allaient en tribune, populaire il y a 20 ans, qui aujourd'hui, en vieillissant, vont maintenant dans les tribunes latérales. Mais qu'est-ce que ils ont arrêté d'être supporters, ils ont arrêté d'être intelligents.
Exactement.
Mais pas du tout, ils vont siffler. Ouais, demande à Julien qui va venir tout à l'heure. Lui pareil, il est passé de Hauteuil au latéral. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il va se faire siffler, Neymar. Il faut arrêter de croire que tous les autres dans les tribunes vont soutenir Neymar parce que c'est tous des gogos et des footix. C'est des conneries, ça.
Julien, tout à l'heure,
c'est des conneries, ça.
Le seul truc qui va pas dans. Je suis entièrement d'accord avec Daniel. Le seul truc, c'est que ce que je te disais, c'est que sur les tribunes latérales, que ça soit Tribune Paris ou les autres tribunes, aujourd'hui, il y a des gardes du corps qui sont là. Il y a des gens pour la sécurité. Et si t'es trop virulent envers un joueur du Paris Saint-Germain, il y a des consignes
mais
qui
vraiment,
te virent. Ah oui. Ah mais écoute-moi bien.
J'ai jamais vu ça.
T'as eu des témoignages là-dessus.
Mais c'est pas des témoignages. C'est que j'ai des amis qui sont supporters du Paris Saint-Germain depuis plus de 30 ans. Ils ont toujours la même place. Et je peux te dire qu'ils se sont retrouvés à voir la fin du match en dessous, hein, dans les souterrains. Ils se sont fait virer parce qu'ils étaient trop virulents envers un entraîneur à l'époque. Tu vois, et ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Donc.
T'as envoyé des mecs en tribune pour allumer Guy Lacombe.
Hein? Non.
À l'époque,
non, mais aujourd'hui, les propriétaires du club, je suis désolé, les Qataris, ils ont mis ça en place. Et c'est problématique pour contester et un supporter comme le dit Daniel, t'as le droit d'émettre un doute ou même une critique envers un joueur, envers une situation. Voilà, et ça me paraît logique. T'es là aussi pour contester, pas que pour encourager.
Avant d'accueillir Paul, 1-7-0 pour la France à l'Euro de volley face à la Roumanie, Nicolas.
Exactement, Gilbert. 25-19, le score de cette première manche. On va juger cette entrée en matière satisfaisante des Bleus qui propose un jeu très varié, que ce soit au centre du filet ou sur les ailes. Tout va bien pour les Bleus qui mènent 8-6 dans le deuxième set.
À tout à l'heure. Tiens, puis Guy Lacombe souhaitait quand même faire intervenir. Il a un truc à te dire. Voilà, il a cassé une porte à Monaco, on s'en souvient. Paul, salut Paul.
Salut les gars, ça va, c'est Pollux.
Ça va, Pollux?
Ah, Pollux,
c'est ouais, c'est, bah, moi, de toute façon, j'ai l'impression d'appeler que quand je suis mécontent avec vous. À l'époque, c'est moi qui intervenais à chaque fois pour parler du Carabio. La seule fois que j'ai fait un truc sympa avec vous, c'est quand j'ai fait les chapeaux des 7 et des 11 à la place de Julien Laurence, quoi.
Ah oui, exact.
Et là, t'es pas content alors?
Bah non, bah je pense que personne n'est content, hein, comme le dit Daniel, de toute façon, à part les petits supporters, les petits rêveurs qui ont entre 10 et 14 ans, qui sont un petit peu loin de toutes ces considérations de négociation et d'appartenance à un club. Je vais vous dire un truc, il y a 80-90% des gens qui vont pas être contents, hein. Et c'est marrant que Willy soulève la théorie du pourrissement, parce que c'est exactement ce que j'ai dit à Max hors antenne quand je l'ai appelé. Et je lui ai dit exactement ça. Le premier truc que je lui ai dit, je suis sûr que le père de Neymar fait exprès de faire pourrir le truc pour que limite qu'il se casse en décembre. J'en suis sûr, quasiment. C'est, tu peux pas dire ça et vouloir que ça se passe bien avec le club où ton fils est et où ton fils est normalement en train d'essayer de se remettre en selle après une image chaotique, des blessures à répétition. Enfin, c'est pas possible autrement, quoi.
Bah écoute, à suivre en tout cas samedi. En tout cas, Daniel, je maintiens quand même un truc. Moi, je trouve le parc des, en tout cas, ce qu'on voit sur Direct Studio là, par exemple, il y a pas mal de supporters aussi qui disent, mais nous, on n'est pas d'accord avec le CUP. Voilà, donc à voir hein, comment ça va se passer
comment,
samedi.
Comment
bah écoute, Jérôme,
non, ils sont peut-être pas d'accord sur comment, les actions à mener, mais, voilà. mais sur la situation, je
mais
pense
pourquoi,
que tout le monde
est unanime. Que tu crois qu'un amoureux
aujourd'hui, il peut pas y avoir un mec qui est supporter du PSG qui pardonne à Neymar. Franchement, le mec téléphone, le type, il est teubé. Non, mais en plus, en fait, c'est
juste sûr, il va téléphoner pour que tu lui rentres dans le show.
Mais en fait, le truc, c'est que c'est impossible.
Mais oui, mais
à moins d'avoir deux de QI, tu peux pas aimer le PSG et dire Neymar, bienvenue.
Neymar, on est content qu'il soit là.
Le mec, il peut pas faire pire, il peut pas te chier plus sur la gueule. Enfin, c'est quoi non, voilà, c'est des parano, des sadomaso, des mecs qui vont dans des clubs où ils se font fouetter.
Là, j'ai un témoignage. Je vais au parc depuis 72, je ne sifflerai pas Neymar. Bah voilà, chacun vit son truc comme il a envie.
Ouais, mais entre pas siffler ou entre
pas siffler, voilà, il y a une différence.
Après moi ce que je regrette,
entre ne pas le siffler ça veut pas dire cautionner ce qu'il a fait aussi.
Tu vois moi ce que je regrette dans cette situation c'est les dernières j'en ai souvent parlé du cas Neymar où on me rentrait volontiers dedans, bon j'acceptais parce que c'est le jeu aussi tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que je dis mais Neymar il a fait tellement de choses depuis qu'il est arrivé à Paris, en fait tellement de choses qu'il voulait faire. Et tout le monde a laissé passer parce que pour un supporter lambda, si Neymar se barre de 3 jours au Brésil faire la fête, il revient. Si à la rigueur il joue le week-end, le supporter il lui pardonne. Mais aujourd'hui, moi ce que je regrette dans cette histoire, c'est que tout le monde tombe sur la gueule à Neymar parce que apparemment parce qu'il a quand même manqué de respect à l'institution. Mais ça fait un an et demi, 2 ans que ça dure, qu'il fait ce qu'il veut. Qui, à chaque fois qu'il se barre, quand il va faire l'anniversaire d'un tel à Turin 2 jours avant un match, quand il se barre, qu'il était blessé, qu'il revient pas pour un match important, quand il va au carnaval à Rio, tout le monde lui laissait passer en disant, ouais, mais bon, il est jeune, faut qu'il vive. Non! C'est depuis le début, toutes ces petites incartades montraient de toute façon que le club, il s'en fout. Si tu t'en fous du club, tu t'en fous des supporters. Il s'en foutait pas de son salaire, ça c'est une certitude, mais il a toujours fait ce qu'il a voulu. Ouais. Et que son père continue maintenant, c'est, de toute façon, c'est comme on en parlait chez Duga tout à l'heure. C'est pour moi, c'est Neymar, c'est comme un gamin. C'est comme un gamin où tu lui dis pendant des années.
Plutôt un sale môme.
Oui, un sale môme, mais que pendant des années tu lui dis, écoute, fais ce que tu veux. Tiens, tu veux un iPad. Tiens, je t'achète un iPad. Tiens, tu veux passer la soirée avec tes potes. Tiens, je te donne 50 €. Tiens, tu fais ci. Tiens, tu veux pas aller te coucher. Bah c'est pas grave. Reste réveillé, même si à l'école demain. Et qu'un jour on lui dit stop. Et ben il comprend pas. Il comprend pas, il va continuer parce que tu lui as pas fait une éducation entre guillemets.
Le problème, c'est qu'on lui a jamais dit stop.
Non, mais bah oui, c'est ça le problème. C'est que depuis qu'il arrive au club, tout le monde lui a dit amen. Et que là, il comprend pas. Et le père, de toute façon, le père, à un moment donné, il a beau s'exprimer dans un langage différent avec le nom de connerie qu'il dit, il brille pas non plus par son intelligence. Et tu te dis, mais c'est les deux, c'est pareil. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'aujourd'hui, pour le père, par exemple, Neymar, c'est une marque internationale que tu peux pas refuser. Donc tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit, ça doit être pris en considération, ça doit être accepté, ça doit être validé, et ça les change. Parce que il y avait une chose, c'est que jusqu'à présent, il y avait que chez nous en France où on était un peu dur envers Neymar et même parfois des gens en France disaient ouais mais les gars quand même on se calme un peu, mais même aujourd'hui au Brésil. Même au Brésil, le nombre d'anciens joueurs qui lui tombent sur la gueule en disant
bien sûr,
oh,
c'est bien pire qu'ici.
Arrête un petit peu avec la fête, avec les gonzesses, avec le marketing. Oh, t'as des pieds en or. Montre-les un peu tes pieds en or, mon gars.
Dans quelques instants, on continue le débat sur la Ligue 1. Cette fois, on va parler de Lille et de Lyon qui jouent demain. Dans les deux clubs, ça va pas très fort. Avant la Ligue des Champions qui démarre la semaine prochaine, toutes les infos et débats à suivre, bien sûr. Supporters Lille et Lyonnais, on vous attend au 32-16 au volet. 1-7-0 pour la France face à la Roumanie et 13-9 dans le deuxième set pour les Bleus. À tout de suite.
RMC, 21h30,
l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Rantaine est là, Willy Sagnol est là, ainsi que Daniel Ariolo. L'Euro de volley, le premier match de l'équipe de France face à la Roumanie. Où en est-on, Nicolas Bayou à Montpellier?
On approche du terme de la deuxième manche, largement dominée par l'équipe de France, 22-13. On est tout près d'un 2-7-0 pour les Bleus qui sont pour le moment bien rentrés dans ce premier match de l'Euro.
À tout à l'heure. Jean Bommel nous rejoint pour faire le point sur le LOSC qui joue demain soir. Salut Djibo.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à
tous. Salut Djibo.
Alors on a aussi Fred Herbel. Oui, parce que Fred, figurez-vous qu'il est assez concerné par la Ligue des champions des clubs français hein. Cette année. Ça va souvent être des duels franco-espagnols. Salut Fredo.
Hola Ticos.
Je rappelle quand même que Fred, c'est l'homme qui avait dit dans l'after attention, quand on prend Neymar, on prend aussi son père.
C'est vrai.
Tu non, l'avais annoncé,
Fred. Alors, excusez-moi, Daniel et Jérôme, ne riez pas. Parce que beaucoup d'auditeurs m'ont envoyé sur Instagram ou sur Twitter l'enregistrement de l'after quand j'ai dit ça, et vous étiez en train de m'attaquer comme toujours. Mais en c'est... disant nana, Daniel tu disais ouais Ronaldo tout ça nana.
C'est vrai.
Mais oui c'est vrai. Mais... je vous demande de réécouter. Merci à tous les auditeurs qui eux n'ont pas des mémoires courtes et qui sont dit bah là.
Nous on a la mémoire courte, on a
pas les mémoires. Fred, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise?
Envoie
une paire de pompes, on va te la cirer si t'as envie.
Bah ouais,
c'est ce que je te dise.
Oh bah moi j'aime bien.
Bon, Lille, on est là pour parler de Lille.
Une fois par année, on peut tirer le cul. Ça vaut pour toutes les autres fois où c'est toi qui dois nous le faire.
Et tu le fais. Il nous le fait quoi? Une fois par mois un peu.
Oui, encore.
Les gars, Lille va pas fort. Dernier match perdu face à Reims, rappelez-vous, 2-0 avant la trêve internationale.
Oui.
Djibo, fais-nous un petit état des lieux là avant le match de demain soir de Lille qui reçoit Angers.
Alors d'abord, bon, plutôt des nouvelles rassurantes pour Christophe Galtier, puisque en dehors de Yazıcı qui est suspendu et Timothy Weah qui est blessé, tout le monde est sur le pont, même s'il y a des joueurs qui sont rentrés très très tard hier soir, eh bien de retour de sélection, hein, Osimhen, Yazıcı, Celik, Reinildo et Bradaric. Mais globalement, voilà, ils disposent d'un effectif quand même assez conséquent pour demain soir. On sait qu'à domicile ça va bien. À l'extérieur, tu l'as dit, il y a une défaite à Reims, mais aussi défaite à Amiens. Donc on sent que c'est une équipe qui est pas encore tout à fait prête. C'est clair, Christophe Galtier nous l'a dit lors de la saison dernière où ils ont vraiment fait un parcours extraordinaire. Il avait 92% de son effectif lors de la préparation. Cette année, c'est 50%, et ça se voit. Voilà, des joueurs comme Renato Sanchez sont arrivés tard, doivent se relancer. Donc voilà, il y a cette petite inquiétude quand même, parce que tu sens que il y a encore du boulot. Il manque peut-être 2 à 3 semaines de préparation pour Lille. Alors demain soir, on va voir. Normalement, je pense qu'il va mettre une équipe qui se rapproche de celle qui va jouer à l'Ajax mardi. Mais voilà, c'est la grosse question, c'est le manque de préparation, de liaison entre les joueurs du côté de l'équipe de Christophe Galtier. Et Lille n'a pas de temps à perdre, parce qu'ils vont enchaîner là une série de comme Lyon d'ailleurs, de 7 matchs consécutifs.
Et c'est ça le problème en fait, Jean. Et c'est ce qui, comment dire, rend la chose extrêmement intéressante et à la fois très compliquée, c'est que Lille découvre un nouveau monde. C'est que cette saison absolument parfaite avec un match par semaine, avec un effectif qui était toujours là et qui pouvait pouvait travailler avec Galtier cette année, comme tu l'as dit, il y a eu du renouvellement, il y a eu une préparation où tout le monde n'était pas là. Il découvre également les rassemblements internationaux qui enlèvent beaucoup de joueurs importants pendant plusieurs jours, ce qui fait qu'il y a, comment dire, des entraînements avec un effectif tronqué. Ça aussi, c'est nouveau. La grande nouveauté, et on sait à quel point ça pompe de l'énergie physique et peut-être même surtout mentale, la Ligue des Champions, c'est le match le vendredi avec, qu'on le veuille ou non, peut-être un petit peu déjà la tête à l'entrée dans la Ligue des Champions mardi soir avec le déplacement à Amsterdam. Il y aura championnat ensuite, il va y avoir une journée en semaine. Là, il va y avoir un enchaînement terrible avec des points précieux à prendre en Ligue des Champions, des points précieux à prendre en championnat. Ce nouveau monde, on ne sait pas, on n'a aucun élément pour savoir comment Lille va entrer dedans. Premier élément de réponse déjà dès demain soir, puis à l'Ajax mardi. Mais c'est en tout cas fascinant et c'est ce que... En tout cas, j'imagine que les joueurs veulent vivre ça et n'attendent que ça.
Oui.
Mais on ne sait pas comment ça va se passer.
Non, Jérôme, on ne peut pas savoir. Ce qu'on peut dire, c'est le premier constat, même s'il faut toujours se méfier des résultats du mois d'août que cette trêve internationale qui arrive toujours au même moment, là, c'est une vraie coupure et t'as l'impression que là, ça y est, la saison, elle débute là, quoi. Donc,
oui, c'est le vrai début, c'est maintenant, ouais.
Ouais. Mais t'analyses les matchs de Lille. Alors, à domicile, il n'y a pas de souci, hein. Ils ont fait carton plein. Ils ont galéré un petit peu sur le premier match contre Nantes, mais ils le gagnent.
Ils ont fait carton plein contre un Saint-Etienne qui était complètement à la ramasse.
Oui, non, mais bon, ouais. ils gagnent à domicile quand même. Donc ça, et tu le vois, comment ils emballent les matchs à domicile, même s'il y a eu des difficultés contre Nantes et aussi Saint-Etienne qui était un petit Saint-Etienne. Mais quand même, il y a une confiance à domicile. Donc moi, ça me rassure, si tu veux, sur leur match de demain. Par contre, comme tu dis, là, ils découvrent la Ligue des Champions derrière, la préparation. Déjà, la préparation, quand t'arrives la veille dans ce stade fabuleux, l'Ajax, la pression, ça te bouffe de l'énergie.
Différent,
Pour info, ils vont s'entraîner au domaine de Luchin à 10h30 lundi matin. Donc, ils vont pas s'entraîner sur la pelouse.
Ils vont même pas là-bas.
Adversaire.
Si, ils vont y aller dans l'après-midi.
Ouais, mais ils s'entraînent pas là-bas.
En tout cas, l'entraînement est à Luchin, ça c'est sûr.
D'accord. Donc,
adversaire, quand t'as pas l'habitude de croiser en Ligue 1 dans le style.
Surtout que t'as perdu deux matchs déjà à l'extérieur en championnat. T'as pris deux petites claques quand même, surtout la dernière à Reims. Donc, ça traumatise. Et forcément, le niveau, il est tellement différent, ce qu'ils vont découvrir, que j'ai peur que sur ce premier match à l'Ajax, ça se passe mal. Et après, quand t'enchaînes des mauvais résultats, je souhaite qu'ils gagnent demain, comme ça, au moins, ils auront la tête bien à l'endroit. Mais si jamais c'est pas le cas, oui, la semaine peut être très compliquée.
Oui, il est ton point de vue.
Ouais, moi, je vois pas les choses comme vous, messieurs.
T'as le droit.
Sur la difficulté de la tâche cette année, oui.
Là, comme c'est un nouveau monde, quand même. Ça, t'es d'accord, Willy? C'est un nouveau monde pour lui.
Oui, sur le côté nouveau monde, je suis d'accord. Moi, sur les raisons de ce début de saison un petit peu, enfin, on va dire moyen, on va pas dire mauvais, on va pas dire bon, on va dire moyen.
De victoires, de défaites, ouais.
Voilà, c'est moyen.
Mais
aujourd'hui, je pense que de dire aujourd'hui, l'année dernière, on avait 90% de l'effectif, cette année, on a que 50%, ça explique ça. Oui et non. Alors, on sait que c'est toujours mieux d'avoir son effectif en amont, le plus tôt possible. Mais Lille, c'est pas le Barça, c'est pas Manchester City, c'est pas l'Ajax avec un style de jeu propre à eux. C'est-à-dire que
l'année dernière, ils avaient bossé sur un style.
Non, mais
et Galtier a fait le recrutement pour ce style.
L'année dernière, quand je te parle de moi, pour moi, un style, c'est la relation inter-joueur dans un circuit de jeu, par exemple. Les dernières, tu regardais. Regarde les dernières, comment les choses se sont passées. C'était des choses très claires, mais qui savaient très bien faire. C'est-à-dire, tu avais deux joueurs offensifs qui rentraient beaucoup à l'intérieur. Et après, ça partait de là. La prise de vitesse était à partir de là. Donc, il n'y avait pas, je dirais, pour un joueur qui éventuellement arrivait, c'était pas dur à comprendre comment voulait jouer.
D'accord. Tu veux dire pour l'introduction d'un mec dans le schéma,
c'est moins dur.
C'est pas méga élaboré. J'ai compris.
Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que il faut se rappeler aussi que l'an passé, quand ils font la préparation, ils sortent d'une saison cauchemardesque. Où il y a énormément à se faire pardonner et il y a énormément à faire pour surtout pas revivre la même saison. Ils font une saison extraordinaire. Moi, alors, je fais partie des personnes qui pensent que c'est aussi humain que se dire un an après, parce que c'est pas, vous n'avez pas des joueurs
chevronnés.
Vous n'avez pas des joueurs chevronnés qui, chaque saison, doivent être
à la perf.
Voilà. Donc là, moi, je pense aussi que quelque part, inconsciemment, même si c'est pas volontaire, inconsciemment, le travail fait cet été a peut-être été moins. Je veux dire, il y a peut-être eu un peu moins d'investissement.
Mais c'est pas la bonne année. C'est pas la bonne année pour avoir cette attitude parce que t'as la Ligue des Champions. Normalement, c'est là où il faut que tu remettes un coup. Quoi.
Je suis d'accord.
Et que pour Mendes, moi, super Nicolas Pépé, c'est énorme.
En plus déjà. Non, mais
là, surtout, tu perds les dernières. Tu peux m'expliquer tout ce que tu veux sur Lille, qu'ils ont fait une super saison. Tout le monde est d'accord. Qu'ils ont été à 120%. Tout le monde est d'accord. Mais les dernières, Lille sans Pépé, c'était sixième.
Il devait être à plus de 50% dans son apport offensif.
C'était cinquième, sixième, septième.
Mais
il déclenchait ça beaucoup par le talent.
Tu sais que quand tu fais des saisons comme ça avec un club qui est surprenant comme l'a été Lille l'année dernière, forcément t'as des joueurs qui se surprennent. Alors je dis pas que si ça avait pas été Pépé, ça aurait été un autre, mais c'est possible. C'est possible de laisser sa chance à un.
Oui, mais le problème, c'est ce que veut dire Willy, c'est que c'est pas comme les clubs ou les équipes où t'as
une mauvaise image, une image faussée,
un tampon qualité.
Oui.
Là, c'était plus une saison extraordinaire. Beaucoup
oui, oui,
de clubs sont capables de le faire. Avec un joueur qui marche sur l'eau et une dynamique et en plus un calendrier un peu léger.
Non,
mais ça arrive. Ça arrive à certains clubs.
Leicester en Angleterre.
Ça arrive à certains clubs. Voilà. Une saison, un joueur qui est complètement au-dessus. Mais après.
Mais tout a été fait
pour. C'est pas une garantie.
Non, mais tout a été fait pour. De toute façon, le projet veut ça à Lille. C'est que tu sais que quand il y a des joueurs qui explosent, tu les vends, ce qui a été le cas. Et après, tu renouvelles avec. Parce que là, quand même, quand tu regardes le début de saison, tu regardes la dernière équipe à Reims, par
d'ailleurs,
exemple.
D'ailleurs, vous avez dit début de saison moyen, non.
Six changements.
Quand le deuxième du championnat perd déjà deux fois.
Moyen,
moins. Il est mauvais, le début de saison.
Il est pas bon.
Et tu as, mais par exemple, tu as la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est tu as ton meilleur joueur de l'an passé que beaucoup de clubs voulaient, il faut dire la vérité, beaucoup de clubs voulaient, pourquoi tu le vends au 15 août?
Parce que ça, c'est un choix de sa part.
Non, mais pourquoi non, oui, c'est un choix.
Traîner, parce que d'abord, il voulait se reposer et avoir un
choix de la part d'un joueur. Donc,
mais Willy, en quoi ça handicap l'équipe, ça?
Parce que si tout le monde savait qu'il partait, de toute façon. Ouais, mais si t'avais eu les 80 millions en vente, t'aurais peut-être pu anticiper ou recruter peut-être un peu plus.
Tu savais que vous alliez trouver, non?
Je pense que le
travail,
c'est une chose que je dis. Voilà.
Si le mec sera arrivé avant, c'est vrai.
Jibo Rapido, ça prend, on prend Eric au 32-16. Vas-y.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, à la base, le deal idéal, c'était avec Nicolas Pépé, c'est que ça se fasse avant qu'il parte à la CAN.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai ça.
C'est tout bête, mais il suffit qu'il se pète à la CAN, t'es pas bien. Donc déjà, il y avait ce deal-là, bon, ça s'est pas fait, et ça a traîné un petit peu, lui ont donné un ultimatum, parce qu'il y avait des joueurs comme Yazid Che et d'autres dossiers qui étaient en attente, parce que 80 millions d'euros, on sait que Lille doit rembourser des fonds américains, donc voilà, il fallait aussi recruter et rembourser un petit peu les emprunts. Donc voilà, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu dans un étau, et cette perte de temps, on la ressent peut-être en ce moment, alors... Globalement, tout le monde est content du recrutement. On sent qu'il y a du potentiel, mais c'est encore.
Après, on sait que c'est le projet.
C'est peut-être un peu.
Jibo, on sait que c'est le projet de toute façon. Donc, quand tu changes la moitié de ton équipe comme ça sur juste un mercato d'été, écoute, c'est normal que ça se recherche.
Jérôme,
un petit peu,
tu l'as vécu ça aussi. Il y a une énorme différence aussi quand tu as une équipe que tu peux avoir à l'entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est-à-dire 5 fois. Généralement, tu doubles le mardi, ça te fait 6 séances d'entraînement pour être performant le week-end. Là, quand tu joues samedi, mercredi,
c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis absolument d'accord. Voilà, ça, on se rend pas compte à quel point ça. C'est un autre monde.
C'est énorme.
Bien sûr, évidemment.
Et là, tu n'as plus le temps de travailler. Tu es quasiment toujours dans la récupération.
Pause, les gars. Absolument. Et ensuite, on accueille Eric au 32.
Ça se gère et difficilement, ça.
Point score au volet, Nicolas, France-Roumanie.
Le troisième set, ça se passe toujours très très bien pour l'équipe de France dans ce premier match du championnat d'Europe. France-Roumanie 2-7-0, 8-2. Ça ressemble tranquillement à une balade roumaine, cette histoire avec ce premier match. Les Français font le spectacle ici.
En même temps, les Roumains ne savent pas jouer au volet.
Ils ont été champions d'Europe il y a quelques années, mais dans les années 60.
J'allais dire.
Mais c'est une équipe qui joue à son niveau. C'est-à-dire l'équipe de France,
quand le filet était plus bas,
l'équipe de France fait partie des très très grosses nations maintenant en Europe, mais aussi au niveau international, et elle est en train de le démontrer, cette équipe de France, ce soir.
À tout à l'heure, Nicolas. 2-7-0 pour la France, donc, qui est devant dans le troisième set. On se retrouve tout de suite pour parler de Lille et de Lyon dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot, Gilbert Bribois
avec Willy Sagnol, avec Jérôme Roten, avec Daniel Riolo, avec Fred Hermel, Jean Baumel. On parle de Lille. Dans quelques instants, Fred va donner des nouvelles de Valence, futur adversaire de Lille en Ligue des Champions. Mais d'abord, accueillons Eric, supporter du LOSC. Salut Eric.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Eric.
Tu crois au rebond, Eric, du LOSC à partir de demain?
C'est complexe parce qu'on est dans une saison de confirmation. Et dans le sport, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Et j'ai entendu ce que vous avez dit sur l'effectif lillois, il y a beaucoup de vérité. Je pense que Pépé n'était pas si énorme que ça dans les prises de décision, parce que je l'ai jamais vu renverser la table dans un match, contrairement à certains autres joueurs comme Thiago Mendes, etc. Mais je pense que le problème de Lille, c'est, comme vous le dites, les transferts en retard et le fait qu'on ne fasse pas une préparation complète avec un effectif. Les joueurs se découvrent. Et là, pour mettre en place des automatismes, une harmonie physique, c'est très complexe, surtout quand on prend un rouge à chaque fois qu'on joue à l'extérieur. Donc, je pense que c'est plus une confirmation qu'il faut attendre. Et c'est très, très, très difficile en championnat.
Bon, donc t'es pas si confiant que ça, en fait, finalement.
Bah, Je pense qu'en championnat, ça va le faire, parce que si je regarde mon équipe par rapport aux concurrents, parce qu'il n'y a pas que nous, c'est vrai qu'on joue contre les autres quand même.
Ouais, il y a beaucoup de qualité.
Du coup, tu regardes, bon, bah, nos concurrents, bon, bah, il n'y en a pas tant que ça qui font vraiment peur. Alors qu'au début de la saison précédente, il y avait plus d'équipes qui faisaient peur. Je veux dire, Marseille faisait peur, alors que là, cette année, bon, ça va. Saint-Etienne, c'est pareil, on sait pas, j'ai l'impression que c'est plus flou pour eux. Donc, je préfère être à ma place de supporter lillois que à la place de certains autres clubs, puisque j'ai quand même l'impression que chez nous il y a une sérénité, une anticipation, que tout va se débloquer, que Lille traditionnellement c'est des nuls au mois d'août. L'année où on est champion, je pense qu'on fait 3 défaites et on gagne un match. Donc tous les ans Lille au mois d'août c'est zéro. Mais je pense qu'il faut être confiant et sincèrement. Hein, je pense que la Ligue des Champions, les sélections de certains de nos joueurs, comme là, je vois Ikoné et tout ce qu'il a fait en équipe de France. Yazici, même, qui n'est pas terrible avec Lille, il fait un but et une passe D en 2 matchs avec la Turquie et tout. J'ai l'impression que tout ça...
Yazici, Osimhen et Ikoné ont marqué des buts internationaux. Ouais,
mais ça, attention, parce que voilà. Mais quand tu découvres comme ça les sélections... Là, je parle pour Ikoné en France. On a beaucoup parlé. T'es sur ton petit nuage. Et c'est compliqué aussi. Hein. C'est compliqué.
Ça, c'est vrai. C'est un des éléments qu'on n'a pas abordé. Mais le nouveau statut de certains joueurs.
Oui.
Et en l'occurrence, Ikoné sous le feu des projecteurs depuis une semaine.
Mais oui,
c'est à prendre en compte aussi. Ikoné, mentalement, c'est une nouvelle épreuve.
On parlait de Pépé qui est parti. L'importance de Pépé l'année dernière sur ses statistiques. Ikoné, c'est le joueur qui doit
prendre plus de responsabilité.
Exactement.
Mais je suis pas trop inquiet sur Ikoné, parce que moi je m'attache beaucoup à, par exemple, le mec, il a été sélectionné pour la première fois, on lui a posé la question, comment tu te sens. Moi j'ai beaucoup aimé la façon dont il a pris cette première sélection.
J'étais inquiet, dit que ça changeait forcément
si,
un homme.
Il a pas dit c'est la concrétisation comme beaucoup de mon travail, de ci, de ça. Ouais. Il a paru être surpris un petit peu. Donc ce qui me fait dire que c'est un gamin qui sait au fond de lui qu'il peut encore beaucoup mieux faire et qui va travailler.
Non, mais t'es d'accord que sur les prochaines semaines là, ou même les prochains jours, pour Ikoné, c'est toujours, ça va être compliqué.
T'inquiète pas, il y a un match qui arrive ce week-end.
Faut qu'il finisse bien les actions. Il connaît seulement 3 buts la saison dernière. Hein.
C'est pour ça.
Je l'ai vu. Il faut vraiment qu'il travaille à fond là-dessus.
S'il vous plaît, Fred, donne-nous des news de Valence. Ça intéresse les Lillois, futur adversaire de Lille en Ligue des Champions.
Bah c'est le bordel.
Ah ouais, c'est plus que le bordel là, même.
Alors je me souviens quand on avait fait sur RMC Sport 1 à la télé le tirage au sort, quand on avait vu que Valence tombait contre le LOSC, la première réflexion qui avait été la mienne, c'était attention, parce qu'il se passe des choses à Singapour. Pourquoi? Parce que le propriétaire, c'est un milliardaire de Singapour. Ça fait 12 heures de décalage horaire. C'est un élément qui est important. Il s'appelle Peter Lim. Et le directeur général avait été convoqué là-bas. Il y avait des trucs bizarres. Après, on apprenait qu'il était conservé dans son poste. Mais que lui, le directeur général, Matteo Alemani et l'entraîneur Marcelino, hein, Garcia Toral, les joueurs qu'il voulait, ils voulaient pas. Ils lui vendaient des joueurs dans le dos. Ils ont essayé de vendre quand même Rodrigo Moreno, qui est quand même le meilleur joueur de l'équipe, quoi, à l'Atlético. Ça s'est pas fait finalement, mais dans le dos et contre la volonté des responsables sportifs. Je sais pas si vous vous souvenez d'un avis tranché que j'avais fait il y a un an en disant quand les propriétaires comme ça, qui sont des gens qui ne connaissent rien au foot, qui mettent de l'argent, font confiance aux gens du foot, ça marche. Et ça a marché cette saison. Mais là, le propriétaire.
Alors qu'il y avait eu des problèmes depuis qu'il est à Valence, il y a souvent eu des périodes bordel, ça marche quand
voilà.
même.
Voilà. Mais bon, en fait, dès qu'il laisse le boulot aux gens, aux Espagnols qui sont là, qui connaissent le football,
pourquoi il le fait pas tout le temps? C'est bon pour ses affaires qu'il les laisse travailler.
Écoute,
pourquoi il va prendre une décision pareille de virer Marcelino alors que les joueurs veulent le garder et qu'ils sont en train de faire la grève?
C'est absolument dingue comme décision.
Mais
parce que c'est un type qui a l'habitude de tout diriger dans sa vie, il s'est pas occupé de Valence.
Mais là, il le vire. Pourquoi il le vire?
Pourquoi? Parce qu'il met pas les mecs qu'il veut. Parce qu'il veut diriger le sportif. Ben, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Je comprends pas là.
La raison officielle, c'est on vire Marcelino parce qu'il ne fait pas confiance aux jeunes du centre de formation. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est une fausse excuse. Mais le propriétaire, mais ça arrive souvent. Jérôme, t'en as pas eu des présidents comme ça qui aimaient intervenir dans l'équipe,
bien sûr,
qui aimaient essayer de faire le 11. Et ben lui, il veut faire le 11. Sauf que ça marche pas avec Marcelino. Mais voilà. C'est tout. Et donc, et quand vous voyez les messages des joueurs, alors il y en a plein, hein, mais non le capitaine, pas les joueurs, tout ça. Mais le message de Carail, simplement, je vous dis la fin. Il a fait un message sur les réseaux sociaux. Et il a dit, tu pars, Mister, coach, tu pars par la grande porte. Ceux qui ont pris cette décision, non seulement ont foncé sur toi, mais ils ont démoli toute une équipe et les supporters. Je le dis haut et fort, c'est injuste. Garay, c'est pas n'importe qui dans cette équipe,
vous imaginez. Oui, c'est sûr, il y a gauche.
T'imagines dans quel état va commencer. Alors, il joue au Barça en plus samedi.
Oui, en plus.
T'imagines dans quel état il commence vraiment la saison, quoi. C'est terrible. Parce que ça avait été compliqué, parce qu'il y avait ces rumeurs.
Le problème, c'est qu'il joue pas contre Lille là. Il joue contre Lille dans.
Ouais, mais même.
Non, mais le problème, par rapport à tout,
c'est. Ah oui, t'es encore là, Willy, pardon, excuse-moi.
Non, mais tu vois, c'est.
T'en as connu, toi aussi, des présidents qui voulaient faire le 11.
Je vais bientôt partir, c'est pour ça que je voulais donner mon.
Mais t'as connu des présidents qui étaient.
Non, moi, j'en ai pas connu de président comme ça. Par contre, il y a une chose, c'est que ce qu'il faut, à un moment donné, dire aussi aux supporters. Parce que les supporters. Quel que soit le club, quand ils voient y arriver un mec riche qui rachète le club, ils sont toujours oh, super, il va dépenser du pognon, il va dépenser du pognon. Que le mec il dépense du pognon et qu'il en perde, les supporters ils s'en foutent. Le jour par contre où le même mec veut décider, là tout le monde dit oh mais t'y connais rien. À un moment donné, il faut, même si pour moi je trouve ça triste pour le football, à un moment donné il faut dire une chose, c'est que Peter Lim, ça lui appartient et il fait ce qu'il veut.
Ah ben non, mais on est d'accord.
Oui, non, mais on est d'accord. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord. Quand je vois la réaction des joueurs, à un moment donné, tu es salarié.
Ah, c'est vrai que c'est eux qui payent. C'est vrai que c'est lui qui paye les salaires aussi.
Ils sont salariés. Et à un moment donné, l'entraîneur, c'est juste ton N plus 1. Mais le plus important, oui, c'est. Voilà.
Un mot sur le successeur quand même.
Les joueurs qui sont des employés peuvent faire grève.
Tu le diras.
C'est autorisé dans les entreprises.
Tu restes avec nous parce que tu veux le donner les nouvelles du Real.
Non, mais attends, ils vont nommer qui à la place, au fait.
C'est la DES. On en parle après.
On en parle dans quelques minutes. Willy, merci beaucoup.
Merci à vous. Les copains.
Salut, très vite, tu reviens très vite dans l'after, bien sûr. Et puis tiens, vous qui êtes dans la région lilloise, sachez que le lundi 30 septembre, l'after sera chez vous. On vient à Lille le 30 septembre. On va à Wascal. Oh. Ah, la taverne du petit Wascal. On sera bien là-bas, on va être bien accueillis et tout.
Je vous attends.
Notamment par l'association des Dogs d'honneur, association de supporters lillois, on va être au top. Donc, le lundi 30 septembre à Lille. Balle de match au volley. Vous serez tous les bienvenus. Hein, si vous êtes dans la région, c'est évidemment ouvert à tout le monde.
Balle de match, exactement. Les Français qui nous régalent dans cette fin de partie. Et voilà, c'est fait. Balle de match conclue par l'équipe de France qui s'impose très facilement sur ce premier match de l'Euro. 25-19, 25-14 et 25-16. Ils nous ont régalé sur la fin de cette troisième manche avec quelques facéties. C'est une entrée en matière parfaite pour ce début d'Euro pour les Bleus.
Merci Nicolas. Prochain match ?
Après-demain face à la Grèce pour l'équipe de France.
Merci Djibo, merci Eric, supporter à Lillois, merci Willy. Dans quelques instants, l'after revient avec Lyon, le Real, le PSG, enfin plutôt le Real que le PSG, parce que le PSG en a déjà parlé. Voilà le programme à venir, donc tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.